Partie 1. Ombre.
Un ciel inadéquat. Il ne correspond à rien, surtout pas à octobre. Un ciel obstinément lisse, luisant comme une immense plaque d'argent. Il est d'un bleu pâle virant au gris, et le soleil, dans sa course, semble l'astiquer. Les jours passent et toujours pas les nuages sombres qui doivent le tourmenter en pareille saison. Il se contente d'être au-dessus des têtes, inutile, insensible à la longue attente des champs brûlants de soif. C'était cela, la soif, l'attente, le vide, mais aussi le regard du grand-père fixant l'horizon et son soupir en fin de compte qui semblait vouloir t'en dire. C'est de là qu'il faut partir pour donner à voir ombre telle qu'on cale la voie de la digue qui longe le bord de mer. C'est de là qu'il faut partir, puisque, sans ce ciel, en cas on est certain, ombre ne l'aurait jamais frôlé. Tout, à présent, semble si simple qu'en cas s'émerveille. Non pas tant du surgissement de ce ciel hors saison, mais seulement de le mettre là, à la place qu'il pense lui convenir, c'est-à-dire au commencement. Il s'émerveille de ce début de clarté, là où régnait le flou. Le ciel, donc, forcément, puisque c'est lui que le père de son père, Rediwa, celui qu'il appelait Tat, n'avait cessé de scruter. Octobre tendait alors à sa fin, et le paysage n'était toujours pas lavé de la poussière qui l'habillait depuis 4 mois. Si encore le vent le faisait frissonner, annonçant ainsi quelque orage, mais rien. Il était immobile, comme pétrifié. Rediwa scrutait l'horizon le matin. Il le scrutait le soir. Il ne disait mot. Son silence se brisait parfois par un soupir, mais il ne disait mot. Jusqu'au jour où, ayant soupiré, il laissa s'échapper ce murmure.
« Ah, la montagne se tait !»
Onka ne put s'empêcher alors de lever les yeux et de regarder le vieil homme. Il essayait de comprendre. Lui que personne ne cherchait jamais longtemps là où se trouvait Rediwa, savait qu'il faut toujours essayer de comprendre ce que dit l'aïeul. Rediwa ne parlait pas comme tout le monde. Comment le pouvait-il, puisque ses yeux voyaient ce qu'il y a derrière toute chose? C'est pourquoi Onka se mit tout contre Tat et regarda dans la même direction que lui. Il voulait voir ce que l'aïeul voyait. À l'horizon, rien de particulier ne le frappait, sinon encore le ciel dont les rebords allaient s'appuyer mollement sur les cimes hirsutes des arbres. Son regard s'arrêta cependant sur le grand fromager plus proche qui se détachait de l'arrière-fond de forêts sombres léchées de brumes bleues. Onka observa ses branches noueuses et dégarnies. Sans savoir pourquoi, les branches du fromager lui firent penser à d'immenses bras tendus invitant de toutes parts vers le village quelques lointains passants. Était-ce là que Rediwa voyait la montagne muette ? Onka ne savait trop. Il hasarda une question.
La montagne se tait. C'est quand la saison sèche refuse de finir, hein, Tat ?
Rediwa baissa les yeux sur Onka et lui caressa doucement la tête. Cette caresse. Onka l'aperçut d'abord sans arrière-pensée. Une simple caresse qui n'appelait rien d'autre, tant ce qu'elle semblait dire paraissait clair. Il s'en méfia tout de même. Lui que personne ne cherchait jamais longtemps là où se trouvait Rediwa, savait qu'il faut toujours essayer de comprendre les gestes de l'aïeul. Rediwa ne faisait rien comme tout le monde. Comment aurait-il pu, lui dont les yeux voyaient ce qu'il y a derrière toute chose? Onka persista néanmoins à penser que l'aïeul, en le caressant, avait bien voulu lui dire qu'il avait tout compris, qu'il s'agissait bien de cette saison sèche. La caresse de l'aïeul se mit ainsi à lui parler de l'année qui venait. Elle sera maigre. Sans la moindre rosée depuis longtemps, la terre sera avare. La caresse de l'aïeul le faisait se tourner en pensée vers la rivière de Gros Galets qui se jetait à la mer du côté où le village finissait. Elle, si grosse en pareille saison, n'était plus qu'une rigole qui découvrait les pierres de son lit. Les enfants pouvaient maintenant sans crainte jouer en son milieu. Ils n'avaient rien à craindre. Ils ne dérangeaient nullement Mumba, la divinité du lieu. Ne disait-on pas à la ronde qu'elle avait désertée quand la rivière prit cette couleur trouble, prouvant que le lit de pierre blanche et scintillante était sali de boue? La caresse de Tat faisait voir cela, et bien plus encore. Grâce à elle, Onka mesurait l'inquiétude de tout le village. Il comprenait soudain le sens des prières autour de l'agneau gavé de plantes sacrées et qu'on égorgeait sans embellement chaque fois que la lune était sur le point d'être pleine. Quelque chose pourtant dans les yeux de l'aïeul, posé de nouveau si loin qu'il semblait égaré, disait à l'enfant qu'il savait et ne savait pas. Alors Onka se mit à envier Rediwa. Quand aurait-il aussi des yeux qui voient ce qu'il y a derrière toute chose ? Soudain, il ne faisait plus de doute. L'aïeul avait caressé pour dire que l'enfant ne comprenait pas encore, mais qu'il avait le temps devant lui. Tout le temps pour comprendre. Onka n'en voulut pas pour autant à l'aïeul. Il s'en prit à lui-même. Il se reprocha d'être né bien longtemps après Tate et de devoir attendre l'âge où les masques livrent enfin leurs secrets. En quelle année déjà, cet octobre-là ? Il est tombé depuis tant d'eau pour que nul, hormis Onka sans doute, ne s'en souvienne. D'ailleurs, quelle importance peut revêtir une sécheresse pour qui ne cherche ombre ? Ce ne fut pas, à proprement parler, un de ces désastres qui défraient les chroniques et mettent le monde en émoi. Tout juste un contretemps, un caprice de la nature que ceux qui ne regardent pas de plus près expliqueraient par le fait bien connu qu'il n'y a plus de saison. Mais précisément, Rediwa l'aïeul fut-il homme à ne pas regarder de près ? Onka sait qu'il ne parla pas pour parler. Aujourd'hui, assis sur la digue qui longe le bord de mer, il est persuadé que ce qu'il sait ne va pas au-delà de ce que voulait dire son aïeul quand son regard se posa sur l'horizon et qu'il murmura. Mais en ce temps-là, Onka ne pouvait voir comme il voit maintenant. C'était un enfant confronté au silence. Bien plus que celui de toute chose, le silence de l'aïeul parfait, comme l'on dit, d'une lame sans brèche, coupant, atroce. Fallait-il s'y blesser pour enfin deviner sa consistance ? Pour qu'il se brise ce silence, fallait-il s'y déchirer de mille manières en se mettant à son écoute ? Il importe peu à Onka de savoir si cette voix fut la seule pour parvenir là où il est. Il dit tout simplement que c'est celle qui l'emprunta. Il ne doute plus. Cette fièvre en lui qui le fait soudain balbutier, comme si c'est à l'instant même qu'il découvre l'usage de la parole, cette fièvre, dit-il, est la même qui embrasait le front de son aïeul à l'heure où ses yeux scrutaient l'horizon. Il dit qu'il est enfin l'âge où les masques livrent leurs secrets. Là, sur la digue qui longe le bord de mer, il dit qu'il voit, maintenant. Il a les yeux de Rediwa et se sent soudain vieux. Alors, ombre, remplissant son horizon, se met à murmurer.
Étreins-moi, nourris-moi, j'ai faim de kaolin autant que tu as soif de moi.
Et Onka ne baisse pas les yeux. Il répond tout simplement qu'il sait.